Bonjour. Nous avons chantreté et proclamé que Dieu est puissant. Vous en êtes sûr? Mais est-ce que nous lui laissons toute la place dans nos vies? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser prendre toute la place? Pas évident, hein? Au mois de novembre, je suis venue vous parler de l'église d'Éphèse qui, malgré le fait qu'elle avait persévéré dans la foi, avait abandonné son premier amour et s'était détournée de Jésus-Christ. En février, nous avons parcouru ensemble les lettres aux autres églises et nous avons vu l'église de Pergame qui est établie là où se trouve le trône de Satan, l'église de Sardes qui passe pour être vivante mais qui est morte, et l'église de Laodicée, qui représente l'église actuelle, et à laquelle le Seigneur Jésus dit qu'il va la vomir de sa bouche parce qu'elle est tiède. Nous avons vu aussi que le jugement va commencer par sa maison, la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église, et que Dieu appelle ses enfants perdus à revenir. Que Jésus veut une église victorieuse, il ne veut pas d'une église tiède. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi vivante et de la foi morte. Et nous allons lire la lettre de Jacques au chapitre 2, les versets 14 à 19. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous lui dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi ?» Et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, car les démons le croient aussi, et ils tremblent. Dans cette lettre, Jacques nous parle de la foi qui sauve et de la foi qui nous maintient au même endroit. C'est-à-dire la foi qui nous transforme, qui guérit, et la foi qui est inutile et inefficace. La foi vivante et la foi morte. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce passage ne parle pas du conflit entre la foi et les œuvres, mais plutôt du conflit entre la foi vivante et la foi morte. Pour bien comprendre ce qu'est la foi vivante, nous devons déjà régler quelques petits malentendus. Souvent, quand on parle de ça, il y a des choses qui ne jouent pas dans nos compréhensions. D'abord, nous avons tendance à penser que la foi est une équation de seulement deux variantes. Dieu et moi, moi et Dieu. Pourtant, la foi biblique n'est pas une équation de seulement ces deux variantes. La foi biblique est une équation de trois variantes. Moi, Dieu, Dieu, moi et les autres. Dieu, moi et mon conjoint. Dieu, moi et mes enfants. Dieu, moi et toi. Dieu, moi et vous. Dieu, moi, la communauté. Dieu, moi et mes relations. Dieu, moi et le monde autour de moi. Dieu, moi et les personnes nécessiteuses et les personnes malades et ceux qui sont dans le besoin. Et même la personne qui m'énerve. La foi nous compte, nous tous, ensemble. Souvent, en tant que chrétiens, nous avons tendance à vivre et à nous comporter comme si notre vie chrétienne se résumait entre ces deux axes, Dieu et moi, moi et Dieu. Alors que la foi n'est pas une affaire privée. Elle n'est pas seulement entre Dieu et moi. Elle l'est dans certains cas quand Dieu nous demande de rentrer dans notre chambre et de fermer la porte. Là, elle est privée. Mais elle ne se résume pas qu'à ça. Parce qu'elle me touche moi-même comme elle touche les autres autour de nous. Souvent, nous pensons que dans nos vies, tout est en ordre. Moi, ça va, ma foi, elle est parfaite, tout est en ordre, tout est OK. Pourtant, on a autour de nous des gens qui ne nous adressent pas la parole. On a des gens qui sont fâchés contre nous. On a des gens qui ne nous disent même pas bonjour. On a des gens qu'on n'aime pas, on leur le montre. Pourtant, la foi biblique inclut aussi ces gens-là. Elle inclut la personne qui est assise à côté de toi ce matin, à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi. La foi biblique inclut toutes ces personnes-là. Et elle nous permet de comprendre la personne qui s'est garée à notre place l'autre jour, là où on voulait se garer. Celle qui nous a bousculé à la caisse du magasin. Celle qui ce matin nous a empêchés de sortir notre voiture au moment où on voulait partir, déjà qu'on n'était pas à l'heure et puis qu'on avait changé d'heure. Ça n'allait pas la faire. La foi implique toutes ces personnes-là. Elle n'est pas une chambre fermée à clé en permanence. Elle inclut aussi les autres. La deuxième chose qui n'est pas totalement juste, c'est que nous avons tendance à penser que la foi est quelque chose qui nous permet d'utiliser Dieu et de le faire bouger. Nous entendons des fois des personnes qui disent, hein, la foi est le levier qui fait bouger la main de Dieu. J'ai même découvert qu'il y a un livre qui s'intitule La foi qui fait bouger la main de Dieu. Mais ça, c'est pas tout à fait la réalité. Parce que si Dieu répond et agit quand on le prie, il n'attend pas que ce soit nous qui appuyons sur le bouton pour agir. Il n'attend pas qu'on aille le gratter avec un bâton pour agir. Notre foi n'est pas un levier qui fait agir Dieu, parce que Dieu, il agit tout le temps. Notre foi est un levier qui nous fait bouger nous, qui fait bouger nos mains, qui nous met au travail. Elle produit des œuvres parce qu'elle nous met en action. La foi nous met en mouvement. Avec ce passage, Jacques nous dit, tu as la foi, ok, mais où sont tes œuvres? Où sont les fruits liés à ta foi? Parce que la foi nous met en mouvement. Dieu, lui, il n'est jamais arrêté. Il n'est pas assis sur son trône tranquillement, là, à attendre qu'on prie, qu'on appuie sur le bouton, qu'on se bouge. Non. Dieu, il n'est pas là les bras croisés. D'ailleurs, dans Jean 15, Jésus dit, Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Ils sont en action tout le temps. Mais la question est plutôt de savoir, est-ce que nous sommes à l'œuvre avec eux? Est-ce que nous sommes en action? Est-ce que nous travaillons avec Dieu? Est-ce que nous sommes en harmonie et à l'unisson avec lui? Et Jacques, c'est ce qu'il veut savoir quand il écrit cette lettre. Donc la foi nous met en mouvement. Le théologien John Stott a écrit dans l'un de ses livres, il raconte le témoignage d'une veuve démunie, nécessiteuse, qui a déposé à son bureau de pasteur une lettre. Dans cette lettre, il était écrit, J'étais affamée, vous avez formé un groupe humanitaire pour discuter de ma faim. J'étais en prison, vous vous êtes silencieusement dirigé dans votre église pour prier pour ma libération. J'étais nu et dans votre pensée, vous avez débattu de la dimension morale de ma nudité. J'étais malade, vous vous êtes agenouillé pour remercier Dieu pour votre bonne santé. J'étais sans abri et vous avez prêché pour moi de l'abri spirituel de l'amour de Dieu. J'étais solitaire et vous m'avez laissé seul pour aller prier pour moi. Vous avez l'impression d'être très saint, d'être très proche de Dieu, mais je continue d'être affamé, d'être solitaire et d'être frappé par le froid. Imaginons maintenant que cette veuve, elle rentre là dans notre église. Elle est habillée de haillons, elle est affamée. Elle n'a rien, démunie de tout. Et nous, on va lui dire, mais viens, viens devant, viens, on va prier pour toi, on va t'imposer les mains. On va lui imposer les mains, on va prier, puis on va lui dire, va maintenant, et sois béni. Et Jacques, il est assis là, parmi nous, il écoute, il regarde. Et là, il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et nous, on est des gens de foi. Alors, on va lui dire, mais Jacques, nous sommes des gens de foi. Nous avons béni cette femme. Maintenant, tu vas voir, Dieu va agir. Et Jacques, il va dire, ok, ok. Donc, cette femme, elle avait faim, elle avait froid, elle avait rien. Donc, vous avez considéré que c'était de la faute de Dieu. Maintenant, vous avez donné des ordres à Dieu pour qu'il fasse. Pour que Dieu bouge. Ben, bien sûr, on va lui dire, bien sûr, Jacques, on a prié. On a l'onction, on a prié. Maintenant, Dieu va bouger. Mais est-ce que vous pensez que cela a à voir avec la foi biblique? Cela n'a rien à voir avec la foi biblique. Et Jacques aurait de quoi nous dire, je ne veux pas savoir ce que Dieu va faire dans la vie de cette femme, je veux savoir ce que vous, vous allez faire. Je veux savoir ce que vous, en tant que femme et homme de Dieu, homme et femme de foi, allez faire pour cette veuve. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter sa faim? Qu'est-ce que vous allez faire pour la réchauffer? Où sont vos œuvres? Où sont vos actions? Parce que la foi, c'est ce qui nous met en mouvement. Elle met en mouvement nos mains, nos cœurs, nos êtres. Elle ne fait pas bouger Dieu. Elle nous met en route, nous. Une autre chose qui est souvent mal comprise dans la foi, c'est le fait qu'on confonde foi et croyance. On va faire un petit jeu, le vrai et le faux. Imaginons que nous avons ici parmi nous quelqu'un qui veut se faire baptiser. Cette personne, elle est prête, Nicolas, il a fait le suivi, elle est prête au baptême, alors arrive le jour du baptême et puis on va poser quelques questions. On va lui demander, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? La personne, elle va répondre, oui, je le crois. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes d'accord, c'est vrai. Bon, on va continuer alors. Crois-tu que Jésus-Christ est mort et ressuscité? C'est vrai. Ok. Crois-tu que Jésus a triomphé sur la mort? C'est vrai. Vous êtes tous d'accord? Vous pouvez dire hein, si vous n'êtes pas d'accord. Bon, alors, cette personne, elle a tout juste. Donc, on va continuer, on va la baptiser. Vous êtes d'accord? On la baptise? Ok. Pourtant, il se peut que ce soit le diable. Ah. Si tu demandes au diable, il croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alors, on va le baptiser aussi? On va pas le baptiser, hein. C'est une bonne question, c'est une question qui nous amène à réfléchir. Le diable croit, on le baptise pas. Parce qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Le diable, il a pas la foi, il croit, c'est tout. Il sait. La foi, ce n'est donc pas seulement croire que ces choses sont vraies. Mais c'est aussi croire, c'est pas seulement croire que ces choses sont vraies, mais la question est, quelle est la conséquence de notre vie sur ce que nous croyons? Où est notre foi et non pas seulement nos croyances? Beaucoup d'individus croient, mais ils n'ont pas la foi. Les bouddhistes croient, les yogistes croient, mais ils n'ont pas la foi. Parce que leurs convictions n'amènent pas à des transformations dans leurs êtres, dans leur vie. La croyance seule sans la foi n'amène pas à des changements de vie. On reste là où on est. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais gamine, j'habitais dans le centre de la France et il y avait tout près de chez moi un funambule. Vous savez ce que c'est un funambule ? C'est quelqu'un qui marche sur un câble avec sa baguette là comme ça puis qui fait l'équilibriste. Donc notre champion Henri, c'était notre champion bien sûr, hein. Il habitait dans un petit lieu-dit, il y avait 3-4 maisons et il avait tendu des câbles entre sa maison et celle du voisin. Et quand il faisait beau, il s'entraînait. Alors nous, les gosses du village, on prenait nos vélos et on allait voir Henri. Il fallait pas faire de bruit pendant qu'il s'entraînait pour pas le déconcentrer. Il est devenu l'un des plus grands funambules du monde. Il a tout fait à pied, en voiture sur deux roues, hein, en moto, avec des chaises. Il a fait l'équilibriste partout autour du monde. Nous, on était fiers, c'était notre champion. Hein. On avait une admiration pour lui, c'était énorme. Et puis, il s'est attaqué au barrage de Grandjean, l'un des plus grands barrages de la région, de la région stéphanoise qui est au-dessus de la Loire. 1600 mètres de traversée. Alors là, on était tous là. On retenait notre respiration, c'était énorme. Bon, il l'avait déjà fait, moi j'étais pas née, mais là, quand j'étais née, j'étais en admiration. Alors les gosses, on était assis là, au bord de la falaise, il y avait les adultes derrière, et tout le monde retenait sa respiration. Et Henri s'y traversait. Un jour, il est venu avec une brouette, il a fait la traversée avec sa brouette, dans un sens et dans l'autre sens. On a applaudi, on a frappé des mains, on était heureux. Il a réussi. Et tout à coup, il a demandé, « Est-ce que vous pensez que je peux le refaire une deuxième fois et que je vais réussir ?» Nous, on a dit, « Oui !» Ok, vous en êtes sûr ? Bien sûr qu'on en était sûr. Et Henri, il a dit, « Et qui veut monter dans la brouette ?» Et là, la foule a reculé. Nous, les gosses, on était assis au bord du ravin, là. Comme ça, on pouvait pas trop reculer, mais on n'emmenait pas large. Hein. On se tenait, on s'est dit, oh là là, lequel il va prendre? On avait l'habitude, il nous avait fait 2-3 coups comme ça, sur le câble entre les deux maisons. On s'est dit, oh là là, on avait peur comme ça. Là, le ravin, le barrage de Grandjean, c'était autre chose. Hein. Entre deux maisons, à 3 mètres du sol, c'était un truc, mais le barrage, on n'emmenait pas large. Alors, la foule était là, reculée. Personne pensait à sauver les gosses qui étaient devant, hein, bien sûr. Presque, on jette les gosses. Personne n'a voulu y aller, parce que monter dans la brouette aurait signifié qu'on aurait mis notre vie entre les mains du champion. On aurait confié nos vies à sa volonté. Pourtant, il y a une petite bonne femme qui est sortie de la foule, comme ça, avec un grand sourire, toute paisible, pleine de bonne volonté, et elle y a été. Elle est montée dans la brouette. Et Henri, il a traversé dans un sens et dans l'autre sens, et il est revenu, il avait réussi. Cette femme ne s'était pas avancée par obligation. Elle n'était pas suicidaire. Ça aurait pu arriver, hein. Qu'elle se dise, j'y vais, et s'il rate son coup, il me jette dans le barrage. On voyait bien dans son attitude qu'elle s'avançait volontairement et qu'elle avait confiance. Elle avait confiance en ce funambule. Cette femme, c'était sa mère. Elle connaissait bien son fils. Elle avait confiance en lui. Elle savait qu'elle pouvait y aller et qu'il n'allait pas l'échapper, qu'il n'allait pas la jeter dans le barrage et que même si au cas où il l'avait échappé, il aurait sauté pour aller la récupérer. Mais elle avait confiance, elle savait qu'il allait réussir, alors elle y a été. La foi vivante, c'est ça, c'est pouvoir faire confiance. Dans ce passage, Jacques veut savoir si notre foi est vivante ou si elle est morte. Pour Jacques, la foi n'existe pas sans les œuvres. Car la foi et les œuvres ne sont pas deux choses séparées l'une de l'autre. Elles ne sont pas deux choses différentes, détachées l'une de l'autre. Ce n'est pas la foi qui concerne Dieu et les œuvres qui nous concernent. si nous avons une foi vivante, nous avons les œuvres. Et c'est naturellement que les choses vont se produire dans nos vies. C'est naturellement que les choses vont changer dans nos vies. C'est naturellement que nous allons rentrer dans la brouette et accepter d'aller nous balader sur le fil sur lequel Dieu va nous emmener. Parce que quand on a la foi vivante, on sait que Dieu est le champion. On sait qu'il peut faire l'aller-retour sur le câble et qu'il va pas nous échapper, qu'il va pas nous jeter à l'eau. On sait aussi qu'il ne va pas nous laisser tomber, que si jamais on fait le fou dans la brouette et qu'on tombe à l'eau, il va plonger pour venir nous chercher. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus peur. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas le vertige. Moi, j'ai le vertige, vous m'imaginez, dans la brouette. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de doute. Mais ça veut dire que malgré nos peurs, malgré nos doutes, malgré le vertige, malgré nos craintes, nos inquiétudes, malgré tout ce que vous voulez, nous pouvons mettre notre confiance en Dieu. Parce que nous savons qu'il est le champion. Lui seul peut prendre soin de nous. Et lui seul mérite notre confiance totale. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Nous pouvons avoir totalement confiance en lui. La foi vivante, c'est oser déposer la totalité de nos vies entre ses mains. C'est pouvoir lui dire, « Seigneur, ma vie t'appartient, accomplis en moi ta volonté, comme tu veux et où tu veux. » C'est faire comme Jésus dans le jardin de Gethsémané et pouvoir lui dire, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » La foi vivante signifie oser rentrer dans la brouette et laisser Dieu nous emmener avec lui sur le fil pour nous emmener là où il veut nous emmener. Lorsque Jésus est allé à Jérusalem, sachant qu'il allait mourir, il est monté dans la brouette. Il a eu confiance en Dieu. Il est monté, il savait que son Père allait réaliser son plan et que ce plan allait réussir. Avoir une foi vivante, c'est ne pas faire comme l'église d'Éphèse. Ne pas oublier notre premier amour et ne pas oublier notre affection qu'on a pour le Christ. C'est ne pas faire comme l'église de Pergame et ne pas laisser le moindre espace de nos vies être construite sur le temple de Satan. C'est ne pas faire comme l'église de Sardes, ne pas chercher à paraître vivant alors qu'en nous, des choses sont encore mortes, des choses ne sont pas encore réglées. C'est ne pas être comme l'église de la Odyssée, ne pas être tiède au point d'être vomi par Jésus. Moi, quand je lis ça, je me dis, oh, Jésus va nous vomir. Oh, ça fait peur. Avoir une foi vivante, c'est nous souvenir que le jugement commencera par la maison de Dieu. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Le jugement va commencer par notre église comme par toutes les églises du monde entier. Avoir une foi vivante, c'est faire le nécessaire dans nos vies afin que la purification puisse se faire en nous. C'est être prêt à servir Dieu, même au plus profond de nos déserts, de nos difficultés, même au pire des ténèbres. C'est oser servir Dieu, quoi qu'il arrive. Zwingli, le réformateur zurichois, a dit « Être chrétien ne veut pas dire parler du Christ, mais plutôt mener sa vie comme le Christ l'a fait. » Avoir une foi vivante, c'est oser laisser Dieu nous entraîner à la suite de Jésus. C'est être transformé d'une telle manière que les fruits seront évidents dans nos vies parce que tout sera bouleversé. Ma prière pour nous tous et pour vous tous aujourd'hui est que nous puissions faire cette expérience de discerner et de comprendre la différence entre la foi vivante et la foi morte. Que nous puissions entrer dans une relation profonde avec Dieu et non pas juste rester sur une expérience religieuse ou émotionnelle. Ma prière est que nous ayons le désir d'avoir une foi vivante. Que nous produisions des fruits qui rendront gloire à Dieu. Parce que lorsque nous serons assis dans la brouette, prêts à accepter que Dieu nous emmène sur le fil sur lequel il veut nous emmener, pour nous emmener là où il veut nous emmener, lorsque nous serons assis dans la brouette, les personnes qui vont nous voir passer, qui vont voir ces changements dans nos vies, elles vont pas nous regarder, nous. Elles vont regarder qui c'est qui pousse la brouette. Si nous sommes des témoins du Christ, des témoins de Dieu, si nos vies portent témoignage, elles rendront gloire à Dieu. Alors, osons nous interroger sur notre foi, afin de pouvoir monter dans la brouette et de devenir des témoignages. Amen. Cette prédication que je viens de vous faire, comme vous l'avez compris, rentre dans une suite depuis le mois de novembre de prédications qui étaient sur l'Apocalypse et qui sont un avant-goût de Pâques en fait. L'idée est de vous conduire jusqu'à Pâques à la suite de ce chemin. L'idée est de vraiment vous conduire et nous conduire ensemble jusqu'à Pâques à nous interroger sur qu'est-ce que nous faisons de nos vies, où est notre foi, qu'est-ce qui ne va pas encore en nous, afin que nous puissions, le jour venu à Pâques, justement, venir à la rencontre de ce Christ qui a donné sa vie pour nous. Le vendredi de Pâques, nous allons avoir un culte. Le vendredi de Pâques, donc, nous allons avoir un culte sur la crucifixion. Où là, vraiment, nous allons planter le décor, un vrai décor. Nous allons mettre la croix. Et l'idée de ce culte va être vraiment de traverser à la suite de Jésus les événements qui se sont passés depuis son arrivée à Jérusalem, dans le jardin de Gethsémané, comment Jésus a souffert, les ténèbres qu'il a traversées dans le jardin de Gethsémané, les angoisses et son arrestation, tout ce qu'il a subi, pour pouvoir nous arrêter au pied de la croix. On va le faire concrètement, ce ne sera pas juste une image. Concrètement, on va mettre une croix. Et l'idée, ce sera vraiment de pouvoir arriver au pied de la croix et pouvoir déposer tout ce que nous avons à déposer. Nous avons tous certainement quelque chose à déposer. Que ce soit un fardeau, que ce soit une tristesse, que ce soit quelque chose qui ne va pas, nous avons certainement tous quelque chose à déposer. Et l'idée sera de pouvoir venir déposer et puis nous humilier et dire à Dieu tout ce que nous avons à lui dire. Et puis, ce culte se fera donc à deux voix avec Manu Richer et moi-même. Et puis le dimanche, ce sera un culte sur la résurrection, où là, nous célébrerons la joie de la résurrection. Il sera suivi d'un repas canadien, une agape où on mettra tout en commun. Et puis après, il y aura un concert de Manu Richer à 15h. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisse la place à Nicolas.
Voilà. Donc voilà ce temps qui est prévu pour Pâques, mais avant qu'il y ait une occasion de mettre en pratique ce qu'on a entendu ce matin. Mais avant cela, on peut déjà le mettre en pratique. Amen.
Oui.
C'est un message qui est confrontant, ce qu'on entend. Dans quelle mesure tu es prêt à entrer dans cette brouette? Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette brouette, qui que tu sois, hein, que tu sois âgé, aîné, que tu sois plus jeune, que tu sois un jeune, un ado, est-ce que tu es prêt à rentrer dans la brouette? Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que chacun d'entre nous, on est prêt à rentrer dans cette brouette que le Seigneur pousse? On va prendre le temps de prier pour terminer ce temps de message. On peut tous fermer les yeux parce que c'est vraiment quelque chose que l'on vit avec le Seigneur chacun. Le Seigneur, il présente devant toi cette brouette qu'il pousse sur un câble qui est au-dessus de ce précipice de la vie. Et derrière, il y a déjà eu une partie du câble qui a été franchie. Et ce câble, cette partie qui a été franchie, c'est sa victoire. C'est sa victoire sur la mort, sur les ténèbres. Et c'est ce chemin qui se présente devant nous avec lui. C'est cette confiance qu'on peut avoir avec lui dans la vie. Et tu en es où, toi? Tu en es où, toi, avec tous les défis qui se présentent à toi dans tes relations? Et voilà, c'est peut-être pas toujours facile ce que tu vis à l'école, ce que tu vis à l'université, ce que tu vis dans ton apprentissage, ce que tu vis au travail, ce que tu vis dans ta famille, l'éducation des enfants, des ados. Ce que tu vis avec les multiples défis qui se présentent à toi dans tous les domaines de ta vie, et parfois tu te demandes, mais waouh, est-ce que je vais y arriver? Et le Seigneur se présente devant toi avec sa brouette. Et il t'invite à venir dedans. Et tu peux être rempli, oui, de doutes, d'incertitudes, d'inquiétudes. Le Seigneur te demande juste de faire ce mouvement, faire ce pas. Tu peux te dire, mais voilà, est-ce que je vais vraiment agir avec foi dans ma vie? Est-ce que les conséquences vont suivre? Est-ce que je vais vraiment refléter cette vie de Christ? Est-ce que je vais me mettre en action pour? Il y a tellement de choses autour de moi qui sont compliquées, de personnes qui sont dans des difficultés. Comment est-ce que moi je peux les aider? Et c'est là que le Saint-Esprit est là. C'est là que le Saint-Esprit est là. Il y a ta foi dans ce que le Seigneur Jésus a fait. Et il y a son Esprit qui est venu. Et son Esprit qui agit, qui est prêt à agir dans ton cœur. La foi, c'est finalement vouloir ouvrir la porte. Et derrière, il y a le Saint-Esprit, il y a l'Esprit du Seigneur, avec toute la puissance de Dieu qui est prêt à agir dans ta vie. C'est là. Il y a juste à ouvrir la porte. Alors ce matin, si tu as été touché par cette parole, je t'invite à, alors qu'on a tous les yeux fermés, à te lever à ta place pour dire, moi je rentre dans cette brouette. Moi je rentre dans cette brouette et quelles que soient mes peurs, quelles que soient mes craintes, je vais dans la brouette du Seigneur. Je le laisse conduire ma vie. Je compte sur le Saint-Esprit. Parce que c'est pas toi qui le fais. C'est pas toi avec tes propres forces. C'est le Saint-Esprit. Avant que je prie à Sylvie qui a une parole.
Oui, pendant que Nicolas parlait, j'ai vu quelques personnes qui sont à côté de la brouette. Et ces personnes, elles hésitent, elles ont peur de monter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées en elles, et puis parce qu'elles savent pas où elles vont aller, et il y a encore des inconnus. Et le Seigneur, il te dit, monte dans la brouette. Tu ne connais pas tous mes plans, tu ne sais pas où est-ce que je vais t'emmener, mais aujourd'hui, il est temps. N'aie pas peur. Ce qui reste dans ta vie, je le sais, je le connais. N'aie pas peur, monte dans la brouette. Il est temps, aujourd'hui.
Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui se sont levées déjà, Seigneur, qui mettent leur foi en action, qui veulent le faire. Et Seigneur, je te remercie parce que tu honores ce mouvement, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour le don de ton esprit. Et Saint-Esprit, je proclame vraiment ton action dans les cœurs maintenant. Je proclame ton action souveraine dans les cœurs. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Je te remercie pour ce que tu es en train de régler, ce qui a besoin d'être réglé. Je te remercie pour le courage que tu viens donner de relever le défi. Je te remercie, Seigneur, pour la paix que tu viens donner au-dessus du précipice, parce que c'est toi qui tiens la brouette. Je te remercie, Seigneur, pour la joie que tu viens donner, parce que ça ouvre la porte à te connaître tel que tu es vraiment. Ouais, j'appelle vraiment ton œuvre maintenant. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, pour les liens qui sont en train de tomber. Merci, Seigneur, pour les œuvres dans lesquelles tu vas faire entrer chacun, Seigneur. Merci pour le courage qui va être là, pour l'audace qui va être là. Merci, Seigneur, pour l'audace, pour l'annonce de ton évangile, avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de toi. Tu nous remplis de ton esprit. Glorifie-toi dans ton Église. Et Seigneur, je te prie pour nous tous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui sondes les cœurs. C'est toi qui sais toutes choses. Je prie, Seigneur, que tu nous gardes de tout esprit de jugement. Et j'appelle, Seigneur, ton esprit de confiance. Ton esprit de confiance en toi, que c'est toi qui agis dans les cœurs. Et que nous avons à collaborer à cette œuvre par notre prière. Seigneur, que nous nous levions chacun à notre place où nous sommes. Et c'est toi qui nous en donnes la force. Parce que tu ne nous juges pas, Seigneur. Tu ne nous condamnes pas. Tu juges ce que l'on fait, mais pas qui l'on est. Seigneur, je te loue pour ton amour et ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.